Il est complètement fou, ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'Ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Bonjour à tous, bienvenue dans Complètement à l'Ouest pour cette émission avec une invitée qui fait référence dans son domaine, une invitée qui au sens propre se trouve complètement à l'Ouest puisqu'en direct de la côte ouest des États-Unis, elle se nomme Aurélie Jean. Mais dans un ouvrage traduit en France en 2018, la scientifique américaine Cathy O'Neill est devenue une figure majeure de la lutte contre les dérives des algorithmes qu'elle nomme « armes de destruction mathématique ». Selon Cathy O'Neill, ce sont les algorithmes qui contribuent aux dérives populistes des plateformes Internet, sans parler que ces formules mathématiques dictent leurs lois dans des domaines aussi variés que l'éducation, l'emploi, la politique ou encore nos habitudes de consommation. C'est donc d'algorithmes, de numérique, de sciences, d'humanité, d'éthique, mais aussi d'entrepreneuriat, dont nous allons aujourd'hui parler. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Bonjour Aurélie Jean.
Bonjour Philippe Boyer.
C'est un très grand plaisir de vous accueillir dans cette émission. Comme je le disais, vous n'êtes pas en studio avec nous à Paris, puisque vous êtes à Los Angeles, ville dans laquelle vous travaillez et résidez, même si vous revenez régulièrement en France. Alors Aurélie Jean, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, votre CV est prestigieux. Allez, je prends mon souffle. Vous êtes une scientifique, docteur en sciences et génie des matériaux. Vous avez par ailleurs une spécialisation en modélisation numérique. Je suis loin d'avoir tout compris. Alors vous n'êtes pas que scientifique, puisque vous êtes aussi entrepreneur. Vous avez fondé la société de conseil In Silico Veritas. Et par ailleurs, vous dirigez depuis plus récemment Depix, une start-up spécialisée dans les applications médicales de l'intelligence artificielle concernant le cancer du sein. Et puis, comme si tout cela ne suffisait pas, vous êtes aussi une auteure à succès avec deux ouvrages de vulgarisation sur le numérique. D'abord, avec ce premier titre paru en 2019, De l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes. Et puis, en 2021, Bis Repetita, avec Les algorithmes font-ils la loi? Ces deux ouvrages parus aux éditions de l'Observatoire. Enfin, je n'oublie pas de dire que vous tenez une chronique hebdomadaire sur les sciences et les technologies, à la fois pour Le Point et dans Les Échos. Alors Aurélie Jean, chacune de nos émissions commence par un court extrait sonore en référence à notre sujet, et là nous allons nous transporter dans un pays que vous connaissez bien, on l'écoute.
I'm convinced that right now one of the biggest impediments to doing all of this, indeed one of the biggest reasons for democracy's weakening, is the profound change that's taken place in how we communicate and consume information. For more and more of us, search and social media platforms aren't just our window into the internet, they serve as our primary source of news and information. No one tells us that the window is blurred, subject to unseen distortions and subtle manipulations. All we see is a constant feed of content where useful, factual information and happy diversions and cat videos flow alongside lies, conspiracy theories, junk science, quackery, white supremacist, racist tracts, misogynist screeds.
Alors, vous aurez reconnu, bien sûr, la voix de l'ex-président Obama qui s'exprimait tout récemment. C'était le 21 avril dernier à l'université de Stanford en Californie. Alors, ses propos sont en anglais, mais en substance, il dit que les réseaux sociaux sont responsables, dit-il, de l'affaiblissement des démocraties. Et quand on écoute l'intégralité de son discours, il estime même que le problème de la désinformation n'est pas ce que les gens publient, mais ce que les plateformes promeuvent. Bref, un speech sous forme d'alerte sur le phénomène de la désinformation qui envahit les plateformes sur Internet. Aurélie Jean, j'embraye tout de suite avec cette première question d'actualité à l'heure où nous enregistrons cette émission. Que vous inspire l'achat de Twitter par Elon Musk, surtout dans un contexte où ce multimilliardaire a déclaré vouloir modifier l'algorithme pour rendre ce réseau social plus transparent et plus ouvert en matière de liberté d'expression?
Alors en fait, j'en ai fait le sujet d'ailleurs de ma dernière chronique au moment où on se parle en fait dans Le Point, et j'explique qu'en fait il y a trois grandes raisons générales de racheter Twitter, et après on va revenir à Elon Musk. Les trois grandes raisons, c'est la première, c'est de faire de l'argent, tout simplement, sans rien changer, avec un système qui a ses nombreux défauts comme on les connaît, et ce que le président Obama a expliqué donc dans son speech. La deuxième raison, c'est ce qu'explique en fait Elon Musk, à savoir de modifier l'algorithme, de le rendre transparent, de le publier publiquement, en fait, de publier le code source pour espérer pouvoir modifier la perception que les gens ont de cet outil et de pouvoir l'améliorer et de le rendre plus éthique. Et l'autre raison, c'est une raison de pouvoir et d'influence, c'est-à-dire, comme vous l'avez très bien dit, Obama l'a dit, en fait, ces outils, ces plateformes sont des éditeurs, ne sont pas que des hébergeurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils hiérarchisent en fait la visibilité des contenus, donc c'est une éditorialisation du contenu. Et donc, par conséquent, c'est un média. Et un média est aussi un outil de pouvoir et d'influence, et qu'on peut tout à fait imaginer que la personne qui rachète Twitter puisse voir dans Twitter un outil d'influence et de pouvoir, en particulier à des fins politiques. Elon Musk parle plutôt de cette deuxième raison, à savoir de publier le code source de l'algorithme pour le rendre meilleur. Il y a eu récemment un article très bien fait dans le MIT Tech News qui justement explique que beaucoup de chercheurs américains en fait sont dubitatifs par rapport aux motivations d'Elon Musk, et surtout, c'est d'ailleurs le sujet de ma prochaine chronique, c'est que la transparence n'est pas l'unique solution, et de publier le code source ne va pas permettre de réduire nombreux problèmes que l'on voit sur la plateforme. Donc il faut faire attention aussi aux solutions simples et pédagogues pour un problème très complexe.
Alors justement, en termes de pédagogie, et si l'on en vient à votre sujet de prédilection, les algorithmes, vous écrivez à la fin de votre premier livre, je vous cite, que nous devons améliorer notre culture algorithmique, et urgemment, dites-vous. Alors je vous prends au mot avec plusieurs sous-questions dans cette question. D'abord, dire, définir, vous l'avez fait de nombreuses fois, mais je pense qu'il faudrait le refaire une fois de plus, pardon. Dire et définir ce qu'est un algorithme et à quoi ça sert, et tout ça bien sûr en quelques secondes. Et puis cette autre question, celle-là un peu plus philosophique, dans de l'autre côté de la machine, vous dites tout algorithme dépend en partie de la vision du monde des individus qui le développent. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans cette phrase ?
Alors, rapidement, un algorithme, c'est un ensemble d'opérations à exécuter selon une certaine logique pour répondre à une question, résoudre un problème. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'algorithmes, ce sont des algorithmes numériques destinés à être implémentés dans un code de calcul pour tourner sur un ordinateur. Mais en fait, le concept d'algorithme est très ancien. Le nom vient du 9e siècle, du nom latinisé algorithmi du mathématicien perse Al-Khwarizmi. Mais le concept même de raisonnement algorithmique date même de la Grèce antique, 3 siècles avant notre ère, avec Euclide et ses éléments. Maintenant, si on reprend la question des algorithmes, et ce que j'essaie d'expliquer en tout cas dans mon livre, c'est que derrière un algorithme, il y a des gens qui prennent des décisions. Il y a les concepteurs, les développeurs, il y a aussi les propriétaires, il y a aussi les entreprises comme personnes morales qui font tourner cet algorithme. Il y a aussi les gens qui vendent la technologie et les gens qui l'utilisent. On a tendance à écarter l'utilisateur. Toutes ces personnes-là vont, par leur vision du monde, leurs usages de la technologie en question, vont en fait dévier, vont diriger, orienter les spécifications de l'algorithme, le fonctionnement de l'algorithme vers une direction en particulier. Et c'est vrai, c'est comme ça, en fait, par exemple, qu'on a des outils qui, je te donne un exemple, des outils qui ont été développés massivement, voire entièrement par des hommes blancs et qui, du coup, vont discriminer, écarter des populations féminines noires, par exemple, de certains usages. Et aussi, lorsqu'on a qu'un seul type de population qui utilise un algorithme et que les données sont récoltées pour pouvoir améliorer l'algorithme au cours du temps par un entraînement en continu. Encore une fois, si on ne vise qu'une catégorie de la population chez les utilisateurs, on ne va faire que renforcer en fait un biais de conception au cours du temps.
C'est ce que vous appelez en effet les biais algorithmiques.
Exactement.
Alors, dans le prolongement de cette question et sur le sujet notamment de la haine en ligne, presque une question de bon sens, ou en tout cas assez évidente, pourquoi est-ce qu'on n'a pas inventé des algorithmes de détection des contenus haineux ? Alors peut-être qu'ils existent déjà, mais ils ne doivent pas être si nombreux ou performants vu que la haine en ligne se déchaîne toujours.
Alors c'est un excellent point parce qu'en fait, pour répondre à cette question, il faut vraiment comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que ces algorithmes existent déjà et qu'ils arrivent à détecter une part significative de ces contenus. Cela étant dit, et je ne connais pas les chiffres, donc là j'invente des chiffres pour que les gens se rendent compte du problème, c'est que même si ces algorithmes détectent 90% des contenus haineux ou transgressifs sur les réseaux, de harcèlement et autres, il n'empêche que les 10% restants qui sont là, on les voit, ils sont vite partagés, visibles sur la plateforme, et les gens ne voient que ça, et oublient qu'il y a eu 90% des contenus qui ont été éliminés. Cela étant dit, Il y a des améliorations à faire sur ces algorithmes. Il y a une collaboration à créer beaucoup plus importante avec les utilisateurs de façon à ce qu'ils puissent reporter en fait des contenus inappropriés. Et pour ça, il faut aussi que les plateformes en question revoient aussi leur modèle économique. Pourquoi ? Parce que en fait, on imagine bien, c'est contradictoire avec leur modèle économique qui veut que les gens puissent s'engager beaucoup sur des périodes courtes. Et donc, comment les gens s'engagent de cette façon? C'est en aimant et en partageant, en commentant des contenus beaucoup plus polémiques, transgressifs, haineux. Donc, c'est toutes ces choses-là, en fait, qui font que les algorithmes existent, il faut les améliorer, il faut embarquer l'utilisateur comme collaborateur. Et surtout, je défends pas la transparence sans condition, parce que parfois elle peut être contre-productive, mais par exemple pour les algorithmes de détection haineux, ces algorithmes devraient être publics et partagés, parce qu'en fait ce n'est pas un différenciateur économique de l'entreprise en question, et ça ne fait pas partie de sa propriété intellectuelle différenciante. Donc voilà.
Alors, justement, pour rester sur ce sujet, dans une de vos chroniques parues en 2020, vous avez écrit, et vous évoquiez ce sujet à l'instant, que la transparence des algorithmes était une fausse bonne idée. Alors, il se trouve qu'il y a le nouveau règlement européen, là, le Digital Services Act, qui a été adopté récemment. Donc, c'est un texte qui prévoit qu'à compter de l'année prochaine, 2023, les grandes plateformes du web devront notamment, si j'ai lu correctement, être transparentes sur les algorithmes utilisés, en permettant aux utilisateurs de les désactiver. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, encore une fois, de désactivation, de transparence des algorithmes? Est-ce que c'est vraiment une fausse bonne idée?
Ça, alors, justement, dans le papier de 2020, ce n'est pas exactement ça que je dis. Vous remarquerez qu'il y a un point d'interrogation dans mon article.
En effet.
J'ai une très bonne mémoire de ce que j'écris. Donc, il y avait un point d'interrogation parce que j'explique, en fait, la subtilité de la transparence, et elle veut tout dire et rien dire. Dans le cas, en fait, de la loi européenne, c'est une excellente idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'exige pas la transparence de l'algorithme strictement, qui, pour moi, n'a pas forcément de sens pour des raisons scientifiques, des raisons de propriété intellectuelle et des raisons d'efficacité, tout simplement. Par contre, d'avoir une transparence, et c'est ce que je défends dans mon livre, sur quel type d'algorithme tourne sur la plateforme, qu'est-ce que font ces algorithmes, avec quel type de données qu'ils collectent sur vos comportements sur la plateforme, ça devrait être obligatoire. Savoir que quand vous allez sur une plateforme comme Twitter, par exemple, le contenu que vous voyez va dépendre de ce que vous aimez, de ce que vous regardez, de ce que vous commentez, va dépendre du type de gens qui vous suivent, du type de gens que vous suivez, etc., etc. Et que désactiver l'éditorialisation du contenu, par exemple, est un très bon moyen pour que les gens se rendent compte de ce que fait cet algorithme. Petit détail, ces algorithmes ne sont pas mauvais en soi, c'est-à-dire que un algorithme d'éditorialisation, un algorithme de recommandation de contenu, c'est important, ça fait que la plateforme fonctionne. Sauf qu'aujourd'hui, ces algorithmes, en fait, ne sont pas bien dimensionnés, ne sont pas bien conçus. Pourquoi? Parce que ils vont dans le sens d'un modèle économique qui, selon moi, en fait, ne peut plus fonctionner aujourd'hui.
Alors, au sujet du métavers, on change un petit peu de sujet. Ces mondes virtuels fictifs dans lesquels on plonge en réalité virtuelle, notamment pour se distraire, consommer, voire éventuellement y travailler. Vous avez écrit, et là je fais attention avec ou sans point d'interrogation, il y a quelques mois, une tribune dans Le Point avec ce titre « Pourquoi Facebook doit rester en dehors du métavers ?» Il n'y a pas de point d'interrogation. Et vous expliquez que ces mondes virtuels pourraient en fait permettre au réseau social de collecter encore plus de données personnelles. Là encore, pardon, deux questions en une. D'abord, vous qui travaillez dans cette fameuse, ou en tout cas à proximité de la Silicon Valley, siège entre autres de Meta, quel est votre regard sur ce métavers dont tout le monde parle comme étant la suite évidente d'Internet? Et puis, deuxième question, pensez-vous que ce métavers risque d'être l'étape supplémentaire sur le sujet de la captation des données personnelles?
C'est un excellent point. Alors, en fait, le métavers n'est pas nouveau. Faut quand même le réaliser, parce qu'on a tendance, à croire aujourd'hui que c'est nouveau et qu'en plus, c'est Meta, anciennement de Facebook, qui l'a créé. Absolument pas. Le métavers, il existe depuis très longtemps. Bien évidemment, pas aussi sophistiqué que ce qu'il ne sera dans peut-être 5 ans. Le métavers, il existe, par exemple, dans le domaine de l'éducation, de la formation par les simulateurs de vol pour les pilotes d'avion. Il existe dans le traitement de la douleur chez des patients avec des casques d'immersion. Il peut exister dans pas mal de domaines. Et bien sûr, il vient du monde du jeu vidéo, là où ça a complètement percé. La différence aujourd'hui, c'est que pourquoi je dis que Facebook doit rester en dehors. Alors après, qui suis-je pour dire ça? Facebook fait ce qu'il veut. Moi, je suis plutôt libérale, donc ils font ce qu'ils veulent. Par contre, je veux que les gens soient protégés par l'État, par la loi et par les connaissances qu'ils vont accumuler sur le sujet. Et donc, concernant Meta, anciennement de Facebook, le problème, c'est que le métaverse, comme Facebook veut l'imaginer, est complètement un monde virtuel dans lequel on aura un avatar pour aller, par exemple, aller visiter un musée à 10 000 km, aller faire une partie de jeu de cartes avec des amis qui sont dispersés dans les quatre coins de la planète. Et en fait, ça, on est dans une toute autre dimension et il y a des menaces fortes de collecte d'informations sur nos comportements. Je m'explique. Alors que lorsque vous êtes sur Facebook ou Instagram et qu'on va collecter des informations sur ce que vous aimez, ce que vous commentez, ce que vous postez, les gens qui vous suivent et les gens que vous suivez. Donc des informations, c'est le cas actuellement, qui sont des informations, j'ai envie de dire, de premier niveau. Et avec ces informations, on peut faire déjà beaucoup de choses. Maintenant, si on va collecter des informations à un niveau granulaire beaucoup plus fin sur vos comportements, je vous donne un exemple. Vous êtes à Paris et vous allez visiter New York. Dans ce monde virtuel, votre avatar va aller visiter New York. Vous pouvez visiter New York avec votre avatar. Et vous êtes sur la 7e avenue, ce qu'on appelle la Fashion Avenue, et puis vous voyez en fait une pub, ou pire, vous voyez une personne passer à côté de vous avec un magnifique manteau en cuir. Vous regardez ce manteau et vous avez une réaction en regardant ce manteau. Et en fait, ça peut être une information particulière qui va dire « Tiens, Philippe Boyer aime ce manteau en cuir, allons lui proposer en retour à acheter. » C'est un peu gros ce que je dis, mais en fait, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'informations beaucoup plus, avec un niveau de granularité beaucoup plus fin pour aller voir les comportements des gens et du coup anticiper, les orienter davantage et donc les manipuler. Donc, faut faire très, très attention. Et on connaît tous les scandales liés à Facebook. On sait, fait, tout ce qui a été fait avant. Donc, il faut, moi, je suis 100% pour l'idée de développer des métaverses. Hein. Après, comme toute technologie, ce n'est pas la technologie elle-même, c'est ce qu'on en fait. Qui est important.
Allez, on va marquer une courte pause musicale avec le titre que vous avez choisi, Aurélie Jean. Il s'agit de Twilight of Your Mind du groupe Papouze. Alors, Seb, vous m'avez-vous écrit le plus californien des groupes français? En tout cas, c'est très années 70, c'est très planant. Presque un mix entre les Beatles et les Beach Boys. Allez, c'est parti, on se retrouve après. Avec Aurélie Jean pour parler algorithmes, numériques, sciences et plein d'autres sujets, et depuis les États-Unis, la côte ouest en l'occurrence. Aurélie Jean, je le disais en vous présentant, vous êtes avant tout une scientifique. Il y a quelques semaines, 30 grands patrons ont fait paraître dans la presse un appel pour sauver les maths. Leur argumentaire est simple et plutôt factuel. Alors je cite quelques points. parce que la puissance industrielle d'un pays ne peut progresser sans scientifiques, parce que les mathématiques sont indispensables pour la bonne compréhension de l'économie, parce que la transition énergétique réclame davantage d'ingénieurs. Bref, j'arrête là cet énoncé et j'en viens à ma question prospective et presque d'actualité. Que feriez-vous sur ce sujet des mathématiques et des sciences si vous deviez occuper le poste de ministre de l'Éducation et de la Recherche ?
Je ne sais pas du tout parce que je n'ai jamais envisagé ça.
En tout cas, sur le rôle des mathématiques.
Non, moi, enfin, je ne sais pas si c'est possible de faire ça, hein, mais je n'ai jamais réfléchi. Mais c'est vrai que, par exemple, je pense qu'on peut valoriser les mathématiques de plein de manières différentes. Et par exemple, on voit que, alors, la réforme du bac a un peu changé les choses, mais avant, les filles abandonnaient les mathématiques après le lycée. Maintenant, elles ont tendance à abandonner l'option mathématiques, ce qui n'est pas les mathématiques, hein, c'est l'option de maths. Donc, c'est quand vous êtes spécialisation mathématique en dernière année. Donc, les filles s'en éloignent. Je pense que moi, je serais assez d'avis de faire des bourses d'honneur pour les élèves qui vont dans le domaine scientifique, c'est-à-dire que par exemple tous les gens qui iraient des bourses d'honneur, donc ce serait par rapport à leurs résultats scolaires bien évidemment et puis leur motivation, etc.
Se retrouve aux États-Unis par exemple.
Il y a des bourses aux États-Unis, voilà, des choses comme ça, spécialisées dans certains domaines pour valoriser. Alors, c'est pas une question d'argent. Les élèves n'iront jamais vers une discipline pour l'argent. Par contre, ils iront et ils auront une bourse et cette bourse, c'est une bourse d'honneur. Donc, c'est très valorisant dans leur CV. Je pense qu'il y a plein de choses. Et concernant le discours qu'on porte envers les jeunes, je pense qu'il y a des discours qu'on porte pas. Moi, je le porte beaucoup. Vous avez des filles, par exemple, parce que, en fait, bon, il y a le cas des jeunes qui s'éloignent des mathématiques, mais on parle même pas des filles. C'est une catastrophe, hein. Et c'est vrai que moi, je le dis souvent aux filles, je fais, écoutez, si vous faites des maths, vous pourrez travailler dans tous les domaines qui existent aujourd'hui. Mais vraiment, vous pourrez travailler dans n'importe quel domaine. Toute votre vie, vous changerez de domaine si vous le désirez. Vous serez donc stimulé intellectuellement et vous gagnerez bien votre vie. Et c'est important de bien gagner sa vie pour avoir une indépendance financière et pour pouvoir aussi prendre soin des gens qu'on aime. Et je suis désolée de rentrer dans ce cliché, mais les femmes sont souvent celles qui prennent soin des autres. J'en suis l'exemple que j'ai pris soin d'un membre de ma famille. Et donc, je considère que voilà, il faut aussi parler argent et les mathématiques vous apportent la liberté, l'argent, l'indépendance intellectuelle, financière, ce qui est quand même un bon combo pour les femmes.
En effet. Arrêtez-moi si je me trompe, mais qui dit algorithme dit IA, intelligence artificielle, et qui dit aussi IA dit d'une part, alors le vieux fantasme d'une IA manipulatrice est donc supérieure à l'homme, et sur ce sujet vous écrivez de manière très clairement qu'on n'y est pas encore, et c'est tant mieux. Et d'autre part, au fur et à mesure où l'IA se développe, on ressent le besoin de régulation, qui s'explique bien sûr par le fait qu'il y a une phénoménale accélération des développements en recherche d'IA. Alors, on en vient à l'une des questions à la fois juridiques et éthiques que vous traitez dans votre ouvrage « Les algorithmes font-ils la loi ?» puisque vous parlez de la régulation de l'IA par le droit. Alors, une double question, là encore, pardon. Première question, avez-vous l'impression que le législateur, alors quel que soit le pays, sauf peut-être en Chine, écoute l'avis de la recherche académique afin de finalement rédiger des lois en synchronisation avec la réalité technologique et scientifique? Première question. Et deuxième question, dès lors que les États décident de réguler l'IA, faut-il, et si oui, comment encadrer cette régulation? Vaste sujet là aussi.
Alors, pour répondre à ça, je reviendrai, c'est ce que je fais dans le livre d'ailleurs, je reviens sur le texte du RGPD de protection des données à caractère personnel, qui est un texte européen qui a influencé le texte américain, on oublie souvent de le dire. En fait, c'est un texte qui est très très bien fait, il y a 99 articles, sur les 99 articles, j'en ai trouvé deux où j'ai trouvé des vides technologiques, ce que j'explique donc des ambiguïtés qui en fait ne font que l'article de loi ne fait pas ce qu'il est censé faire, à savoir protéger les droits fondamentaux des individus pour deux sujets qui sont le profilage et le droit à l'oubli. Maintenant, et ce RGPD, il a pu naître parce que les parlementaires et les législateurs ont travaillé main dans la main avec des gens, des sachants et des gens qui pratiquent. C'est important aussi, les gens qui pratiquent au quotidien. Maintenant, concernant l'IA et donc les algorithmes, parce que l'IA, c'est des algorithmes et de la data. Donc, le RGPD, quelque part, donne les premières briques de régulation, d'encadrement de développement des algorithmes, mais on doit aller plus loin. Et c'est là, en fait, où l'Europe travaille. Donc, on parle du DSA, on parle du DMA, il y a aussi un texte sur les algorithmes strictement dont le premier draft a été proposé il y a un an, qui a été mis de côté pour le moment, mais sur lesquels l'Europe va revenir. Et je pense que ce que j'explique dans le livre, c'est que dans le cas des algorithmes, on est dans un autre monde, beaucoup plus complexe, beaucoup plus abstrait et qui évolue extrêmement rapidement, beaucoup plus que la data qui est en plus plus simple à comprendre en fait. et tout le monde donne des exemples de data, de données. Et donc, en effet, par exemple, il y a un an, quand le draft est sorti, ou voilà le premier texte, j'ai été très étonnée de voir que, par exemple, le texte était selon moi un peu plus conservateur que le RGPD. Je donne un exemple. Par exemple, dans le cas de ce texte sur les algorithmes, on ne faisait pas la distinction entre la recherche et la commercialisation, le développement industriel. Ce qui pour moi est un problème, puisque le RGPD, par exemple, qui est très bien fait sur ce point-là, tout n'est pas parfait dans le RGPD, mais c'est vraiment un texte révolutionnaire, c'est que, par exemple, quand on fait de la recherche, vous n'êtes pas soumis de la même manière au RGPD, et c'est tant mieux, faites de la recherche sur la data, sinon on freinerait l'innovation.
Bien sûr.
Donc c'est très très bien. Sur les algorithmes, ils n'ont pas fait cette distinction. Donc ça me fait un peu peur, parce qu'il faut qu'on puisse, dans la recherche, travailler sur des sujets même qui amènent de la controverse, parce qu'on doit pouvoir essayer de comprendre en fait pas mal d'algorithmes, comment on peut les utiliser, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, etc. Donc je dirais que les législateurs s'entourent de gens, bien évidemment, mais il faut aller un cran plus haut lorsqu'il s'agit des algorithmes, parce qu'encore une fois, ce domaine est très complexe, très abstrait, et il évolue extrêmement vite.
Alors le mois dernier, toujours sur ces sujets bien sûr numériques, le mois dernier dans ce micro, on recevait le journaliste Guillaume Pitron, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Enfer numérique, qui est très bien fait, et il analyse les externalités du numérique, notamment de l'IA, de la data. Il cite par exemple le fait qu'un mail avec une pièce jointe, c'est l'équivalent d'une ampoule allumée pendant une heure, que le visionnage 1,7 milliard de fois du clip Gunman Style, c'est la consommation annuelle de la ville d'ici les Moulineaux. Bref, le numérique contribue à cette pollution mondiale et au réchauffement climatique. Et la question que je voulais vous poser, c'est comment finalement la scientifique numéricienne que vous êtes appréhendez ce défi du numérique qui devra quelque part de plus en plus tendre vers beaucoup plus de sobriété, en tout cas énergétique.
Alors moi, je fais très attention au poids des mots, c'est-à-dire que j'aime pas parler décroissance, mais je préfère parler de croissance responsable. J'aime pas parler de sobriété numérique. J'aime bien parler de numérique responsable. Je m'explique. La voiture pollue et pour autant, on ne va pas arrêter d'utiliser la voiture. Par contre, on va revoir nos modes de déplacement, ce qui ne veut pas dire qu'on va moins l'utiliser pour moins l'utiliser. On va l'utiliser différemment. Donc j'aime bien rentrer dans ce paradigme de la transformation et non de la réduction ou de la limitation. Et donc dans le cas du numérique, il y a deux choses en numérique qui polluent. C'est donc tout ce qui est calcul, action, comme l'envoi d'un email. L'envoi d'un email, c'est un calcul en fait. Ou le stockage d'informations, le backup, le fait de sauver sur plusieurs serveurs, etc. Et puis il y a aussi le hardware qui est peut-être encore plus polluant, parce qu'en fait on va aller prendre dans les ressources naturelles pour aller produire ces outils. Donc cela étant dit, en fait, il faut réfléchir à pourquoi on fait les choses. C'est-à-dire, par exemple, il y a différents types d'algorithmes, et en fonction du type d'algorithme, on va utiliser plus ou moins de data, plus ou moins d'informations, et le calcul d'apprentissage qui en résulte est plus ou moins important, il va plus ou moins prendre d'énergie. Et c'est en cela où il faut faire très attention avec des calculs records qui sont sortis ces deux dernières années, comme un calcul record de Google d'apprentissage sur un nombre gigantesque. C'est un record du monde, en fait, du nombre de paramètres identifiés lors de l'apprentissage. Ce calcul, en fait, ne sert pas à grand chose en soi. Vous voyez, donc il faut faire attention à ça. Et petit détail aussi, tout ce qui est énergétique, impact écologique, sont pris en considération, commencent à être pris en considération dans la gouvernance des entreprises. C'est-à-dire que moi, quand je développe un algorithme, je réfléchis à ça aussi, à savoir est-ce que je peux faire un algorithme aussi efficace avec moins de data. Est-ce que je peux faire... Vous voyez ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Mais après, on ne va pas interdire... C'est le coût de la décision. C'est pour ça que je préfère parler de... Il faut qu'il y ait une responsabilisation, une réflexion autour de ça très profonde. Voilà. Pourquoi ? Parce que, par exemple, l'algorithme que j'ai développé avec mes collègues israéliens, qui va identifier le cancer du sein plus de 2 ans avant qu'on voit la tumeur sur la mammo, c'est révolutionnaire. Donc ça va prendre de l'énergie pour le faire tourner, mais en retour, en fait, vous allez gagner énormément d'impact écologique, parce que vous allez pouvoir éliminer des traitements chimiothérapiques très polluants, vous allez pouvoir diminuer pas mal de choses. Donc en fait, c'est toujours le coût de la décision et de voir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment, etc. Donc je pense qu'il faut toujours faire attention aux mots qu'on utilise. Moi, je suis pas du tout l'endrame, vous remarquerez. Je suis quelqu'un qui fait toujours attention aux mots que j'utilise, parce voilà. Et je veux surtout pas faire peur, en fait. Donc j'évite d'utiliser des mots qui font peur. Et moi, je veux que les gens comprennent des choses. Après, il y a des alertes à faire. L'alerte écologique en est un très important, une très importante, parce qu'on voit bien que ça, on est vraiment dans un point de non-retour, et pas que à cause du numérique.
Alors, on est presque au bout de l'émission. J'ai encore deux petites questions à vous poser. Oui. À la fin de votre premier livre, De l'autre côté de la machine, vous évoquez le moment où vous avez eu, quelque part, le fameux déclic, cette évidence qui fait que l'on réalise que l'on a une mission à accomplir dans ce monde. Quand s'est produit chez vous ce déclic, cette évidence que vous deviendriez une scientifique qui essaye d'avoir un impact réel sur le monde tel que vous venez de le décrire?
Moi, j'ai eu un impact d'abord sur l'influence de mon travail sur les autres. J'en parle à la fin de mon premier livre, justement dans la conclusion, où en fait j'étais dans mon bureau au MIT et je travaillais à l'époque sur de la modélisation algorithmique, bien évidemment numérique, pour aller comprendre les mécanismes du traumatisme crânien. Et à l'époque, donc, j'avais développé une loi qui permettait de détecter les risques de traumatisme crânien moyen qui sont extrêmement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui sont très difficiles à détecter. Et donc, grâce à ma loi, en fait, que ce soit la Navy, l'armée américaine, en fait, ils ont pu détecter les risques de leurs soldats exposés à des engins explosifs improvisés, de détecter les risques de traumatisme crânien moyen avant l'arrivée des symptômes. Et je me souviens avoir reçu un email d'un soldat, en fait, revenu d'Irak et qui me remerciait dans son email. Me remercier en fait du travail que j'avais fait parce qu'il avait lu mon papier qui avait été accepté dans la revue l'Académie des sciences américaines. Et en fait, il m'avait dit, voilà, moi j'ai un traumatisme crânien moyen et à cause de plusieurs engins explosifs auxquels j'ai été exposée, et depuis j'ai du mal à dormir, j'ai des pertes de mémoire, je suis dépressive, je ne peux plus travailler. Et donc il m'avait remercié et j'avais été très émue et très touchée par ce geste. Et depuis, du coup, je comprends que ce que je fais a un véritable impact. Et j'essaie de l'étendre et j'essaie de prendre conscience de ça, et surtout j'essaie de prendre conscience du bien que je peux faire aussi et du mal que je peux faire. Je dis souvent ça, c'est-à-dire que tech for good c'est super, mais il faut réfléchir aussi au mal qu'on peut faire même à une minorité, parce que même si on fait du bien à 99% de la population, si à 1% de la population on fait du mal, voire beaucoup de mal, il faut revoir en fait ce qu'on fait.
Dans vos livres, vous parlez souvent de votre famille et notamment de vos grands-parents, que vous citez au début de votre livre De l'autre côté de la machine, vos parents aussi français et américains. Que vous ont-ils légué qui fait que vous semblez être d'un optimisme inoxydable? Et en tout cas, on a un immense plaisir à vous écouter.
Mais écoutez, c'est marrant parce que moi, l'optimisme est souvent vu comme un luxe en France. Et je pense que l'optimisme, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est-à-dire que c'est quand ça va moins bien, quand vous avez pas de backup, quand c'est compliqué, c'est là que vous êtes optimiste, sinon vous n'y arrivez pas. Et que les gens qui sont pessimistes, c'est qu'au contraire, ils ont le luxe d'être pessimistes. Je le pense vraiment. Et que moi, j'ai été élevée par mes grands-parents qui, ils ont connu la guerre, ça a été très compliqué pour eux. Et donc, j'ai été élevée dans cette idée où il faut toujours voir le verre à moitié plein parce qu'en fait, il faut croire. Il faut croire pour espérer et continuer à avancer et faire que ça marche. Et encore une fois, les gens pessimistes, ils ont le luxe de l'être. Moi, j'ai pas le luxe d'être pessimiste. Non, mais c'est vrai. Et puis c'est ma mentalité. Je suis un happy baby et mes parents américains de cœur, Jane et Brian Krantz, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont américains. Jane vient d'Angleterre. Brian a réussi tout seul. C'est des gens qui ont traversé des moments aussi difficiles dans leur jeunesse et que c'est des gens et par la nature américaine même, on sait qu'aux États-Unis la vie est dure. Elle est plus dure sur pas mal d'aspects, elle est plus simple sur d'autres. Et en fait, les gens y croient. Et même lorsque, il y a eu la crise de la pandémie, il y a eu des désastres, des catastrophes aux États-Unis. Les gens ont dit « it's gonna be fine, ça va aller, on va y arriver ». Et en fait, c'est cet optimisme, moi, qui me plaît, qui me drive. Et comme je le dis toujours, l'optimisme, c'est une nécessité, c'est pas un luxe.
En tout cas, ça sent incroyablement. Merci beaucoup, Aurélie Jean. On est au bout de notre émission, d'avoir accepté de participer à cette émission depuis les États-Unis, depuis Los Angeles. Nous étions vraiment complètement à l'ouest et cet entretien était vraiment passionnant. Alors, je rappelle que votre dernier livre s'intitule « Les algorithmes font-ils la loi ?». Il est paru aux éditions de l'Observatoire. Il faut absolument le lire, car comme chacun de vos livres, c'est vraiment passionnant. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Ce sera la dernière de la saison. Comme toujours, l'invité sera passionnant, mais ça, c'est pas une surprise, j'en dis pas plus. En attendant, cette présente émission peut être écoutée ou réécoutée en podcast, en balado diffusion sur les principales plateformes de podcast en ligne. Merci aussi à tous ceux qui sont en régie, qui ont permis la préparation et la réalisation de cette émission. Allez, on garde l'optimisme, on garde le cap à l'ouest, complètement à l'ouest. Merci beaucoup, Aurélie Jean, à bientôt.
Merci.
Mais il est complètement fou, ce mec!
Alors, promets-moi de pas bouger.
C'est d'accord.
Complètement à l'ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission